Monsieur le procureur, maîtres, chers collègues, mesdames et messieurs les enseignants, chers collègues, chers étudiants, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ouvre ce colloque et vous accueille aujourd'hui pour trois séries de raisons, mais qui ne seront pas longues, rassurez-vous. La première, c'est que ça me donne l'occasion de féliciter chaleureusement Delphine Taillandier et Benjamin Lavergne, mes deux collègues, qui ont eu la très belle idée d'organiser cette manifestation scientifique avec beaucoup d'enthousiasme et, vous allez le voir, beaucoup de recherches dans les thématiques. Et donc, on peut déjà leur dire bravo, puisque la journée s'annonce belle. C'est aussi l'occasion de saluer l'engagement de nos étudiants de Master, Master 2, Justice, Procès, Procédure et Juriste de Droit Public, puisque vous l'avez d'ores et déjà vu. Ils sont à l'œuvre pour vous accueillir de belle manière, avec le sourire, avec élégance. Merci à eux. Comme à chaque fois qu'on organise un colloque, on ne réussit à le faire vraiment et efficacement qu'avec l'aide et l'investissement de Véronique Picard et désormais Claire Gommet, qui est à ses côtés, je la charge des yeux, et aussi grâce à Philippe Dumas, qui va nous accompagner toute la journée, nous filmer, et vous avez gentiment accepté d'abandonner votre droit à l'image. Vous verrez, il y aura des montages fabuleux à la sortie. C'est une très belle idée, je disais, que ce colloque, puisqu'il va conduire à interroger l'intérêt et les limites de la distinction entre police administrative et police judiciaire. Je vois qu'il y a quelques étudiants de deuxième année, de master, on l'a déjà dit. C'est très bien, puisqu'ils sont en train de découvrir, sous cet angle, me disait Benjamin Lavergne, les affres du dualisme juridictionnel, les subtilités du critère finaliste, bien malmené, parfois bien subtil, oui. Peut-être que la journée va leur donner des solutions, en plus de celles que tu leur apportes en cours, Benjamin. Le colloque d'aujourd'hui, en fait, il est dans la continuité du programme des colloques de l'IRJI, notre laboratoire de recherche, celui qui réunit désormais tous les juristes de cette faculté, qu'ils soient publicistes ou privatistes, et puis s'adjoignent à nous des spécialistes de sciences politiques et quelques économistes désormais. Et l'un de nos axes, en tout cas notre parti pris, c'est d'essayer de croiser les regards le plus souvent possible entre droit privé, droit public, juge judiciaire, juge administratif. La journée d'aujourd'hui va nous amener ô combien à le faire, et je l'espère à le faire bien, enfin, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois, mais ça c'est votre responsabilité, et je suis très confiante. Vous l'aurez compris, donc, c'est pas seulement en tant que doyen que je suis heureuse d'ouvrir ce colloque, mais aussi en tant que publiciste, puisque je suis sûre que je vais apprendre beaucoup. Merci beaucoup. C'est la parole à Delphine Taillandier.
Merci beaucoup, Madame le Doyen. Alors, je voudrais remercier avant tout les intervenants des différentes tables rondes qui sont venus pour nous faire partager le fruit de leurs recherches, de leurs réflexions et puis aussi le fruit de leur expérience. Nous avons volontairement, avec Benjamin, sollicité des universitaires, bien sûr, mais aussi des praticiens, des professionnels qui sont confrontés à la mise en œuvre de ces mesures de police au quotidien. Donc à tous, un grand merci d'être venus et de prendre du temps pour cette journée. Je voudrais, parmi les collègues, quand même remercier tout particulièrement, parce que je me place du côté pénaliste tout de suite, je voudrais remercier François Fourmand parce qu'il m'a quand même inspiré sur l'organisation. Il m'a inspiré sur la réflexion de cette journée. Et puis je voudrais remercier aussi Olivier Kahn, notre nouveau collègue pénaliste sur Tours, parce qu'il a pris son poste au 1er septembre et tout de suite il a répondu favorablement à notre demande de participer au colloque. Et puis il nous prête main forte, donc merci beaucoup Olivier. Je voudrais ensuite bien évidemment saluer l'aide matérielle, logistique que nous avons eue au sein de l'IRGI. Donc je remercie Claire Gommet, Véronique Picard et puis Xavier Houillet aussi qui nous a aidés à faire cette belle affiche. Je voudrais remercier Maud Léna, mais qui n'est pas encore présente, je crois, parce qu'elle est rédactrice en chef de l'AJ pénal et rédactrice du Code de procédure pénale. Et elle nous a remis un certain nombre d'exemplaires de l'AJ pénal pour cette journée. Et normalement, elle nous fera le plaisir d'être ici, donc je tenais à la remercier. Et puis, je voudrais remercier tous ceux qui sont présents, donc collègues, professionnels du droit et aussi et surtout étudiants. Vous êtes venus nombreux, donc nous sommes ravis. Même si, pour être tout à fait transparente et honnête avec tout le monde, il s'avère que j'en ai contraint et forcé une partie d'entre eux, j'avoue. Puisque nous avons balisé l'emploi du temps des Master 2, et aussi et surtout pour le Master 2 Justice Procès Procédure, nous avons travaillé sur la question depuis le début du semestre. Donc ils n'avaient plus trop le choix que de venir finalement aujourd'hui. C'était un petit peu l'objectif. Donc merci à tous d'être venus. L'avantage, c'est quand même qu'on a un public qui du coup est sensibilisé sur la question et qui peut-être aura des questions au fil de cette journée. Et puis, je voulais finir, on dit toujours le meilleur pour la fin, je voulais finir mes remerciements pour Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin, parce que ça a été un plaisir de travailler ensemble. Et puis, pour une première, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que c'est une réussite. Et puis, je suis ravie que ça se concrétise aujourd'hui. C'est pas la fin, hein. On verra ce qu'on fait de tout ça après. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté à ce qu'on travaille ensemble. Alors, quelques mots introductifs, mais je vais essayer de ne pas être très longue parce qu'on va vite arriver sur les tables rondes. Quelques mots sur la genèse de ce colloque, le point de départ. Il y a un constat que l'on fait tous, c'est que, bien évidemment, police administrative et police judiciaire se rapprochent, alors que même traditionnellement, on a tendance à les différencier, notamment par le fait que l'une protège des risques de troubles causés à l'ordre public, à la sécurité publique, là où l'autre intervient normalement en réaction aux troubles causés à l'ordre public, puisque la police judiciaire intervient pour la recherche d'infractions. Alors il est certain que distinguer ces deux polices n'est pas chose simple, ça ne l'a jamais été, mais force est de constater que la lutte contre le terrorisme a tendance à encourager l'essor des pouvoirs de police administrative et donc à exacerber le rapprochement entre la police administrative et la police judiciaire, ne serait-ce qu'en permettant la réalisation d'actes quasi identiques, qui plus est effectués par les mêmes forces de police. Les dernières réformes législatives nous le montrent. Pour n'en citer que quelques-unes et les dernières, il y a eu quand même en matière de renseignement une évolution. Au début, il y avait peu de dispositions législatives, notamment sur les écoutes administratives. Et puis avec la loi du 24 juillet 2015, on a une véritable base juridique qui, en pratique, rend possible des opérations en police administrative similaire ou quasi similaire à ce qui se fait déjà en police judiciaire. Ensuite, il y a eu bien sûr l'état d'urgence dans sa version modifiée qui a été un régime d'exception qui a su s'inscrire quand même dans le temps et qui là encore a contribué à cette convergence entre les deux polices. Et puis dernièrement, eh bien, il nous faut évoquer la loi du 30 octobre 2017, la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, tel est son nom. C'est une loi qui contient un certain nombre de dispositions qui renforcent la prévention du terrorisme et donc qui va, là encore, conforter l'ancrage de certaines mesures de police administrative et donc un rapprochement certain avec ce que permet la police judiciaire. Donc la frontière police administrative, police judiciaire est indiscutablement poreuse, on le lit souvent dans un certain nombre d'articles, notamment de doctrine. Certains parlent de chevauchement entre les polices administratives et judiciaires, d'autres utilisent même l'expression de procédure parapénale pour parler de la procédure administrative. Alors peut-être est-ce révélateur d'une volonté de contourner le carcan de la procédure pénale, ou bien n'est-ce que la preuve d'une nécessaire complémentarité entre les deux polices pour parvenir finalement à cet objectif ultime aujourd'hui que nous avons, à savoir lutter contre le terrorisme. Alors, en tout cas, il nous semblait intéressant de confronter nos points de vue de publicistes et de pénalistes pour comparer, par exemple, ce qui déclenche une mesure de police administrative par rapport à ce qui déclenche une mesure de police judiciaire, ou encore pour comparer les différents régimes de ces mesures de police et les garanties qui sont offertes, puisque certaines de ces mesures sont quand même attentatoires aux libertés. Alors sur ce dernier point, on ne peut pas nier le fait que ces réformes précédemment évoquées ont parfois contribué à évincer le juge judiciaire au profit du juge administratif. Bien sûr, traditionnellement, on sait tous, on enseigne que le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution française, mais il n'empêche que la juridiction administrative est elle aussi protectrice des libertés. Le Conseil constitutionnel n'a pas manqué de nous rappeler comment il fallait interpréter cet article 66 et n'a pas manqué de limiter la liberté individuelle dont le seul garant serait le juge judiciaire. Donc il y a, il me semble, une vraie complémentarité entre les juges administratifs et judiciaires. Tous deux sont des garants des atteintes qui sont portées aux libertés fondamentales. Et le colloque est justement l'occasion d'en discuter et puis d'apprécier la répartition des rôles peut-être entre ces deux ordres aujourd'hui. Pour terminer, après concertation avec Benjamin, nous avons choisi de poser le thème du colloque sous une forme interrogative. La distinction entre les polices administratives et judiciaires a-t-elle encore un sens ? À souhaiter que la réponse à l'issue des tables rondes soit positive, il me semble qu'il y a peut-être une question sous-jacente à laquelle les tables vont répondre, à savoir quel sens faut-il donner aujourd'hui à cette distinction. Donc les avis sont très certainement partagés, mitigés, et c'est pour ça qu'on a choisi le format table ronde pour qu'il y ait un maximum d'échanges sur cette journée. Donc voilà, ça doit faire à peu près un an que nous avons en gestation avec Benjamin ce beau projet. Je me réjouis d'avoir à ouvrir cette journée aux côtés de Nathalie et Benjamin. Et puis je vous remercie tous de l'intérêt que vous portez à la question et puis de votre présence, tout simplement. Merci beaucoup.
Bien, je tenais à mon tour à remercier l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de participer à cette journée. À remercier également mesdames Véronique Picard et Claire Gommet pour leur aide matérielle précieuse, ainsi que les étudiants des Master 2 juristes procès procédure et juristes de droit public. Je voulais aussi te remercier, toi Delphine, pour les heures conviviales mais sérieuses passées à préparer ce colloque. Ne change rien. Alors, la distinction entre la police administrative et la police judiciaire correspond à une summa divisio fondamentale et bien connue, illustrant le dualisme juridictionnel français. Elle constitue un passage obligé pour tout étudiant de deuxième année en droit administratif, et je les salue. Passage obligé permettant sans doute aussi aux enseignants de la même matière d'interroger une nouvelle fois l'autonomie et le champ de leur propre objet d'étude. Pour autant, la ligne de démarcation entre ces deux notions n'a jamais été parfaitement claire. Après tout, la police administrative et la police judiciaire sont toutes les deux des polices de l'ordre public, et certains auteurs ont pu à cet égard relever l'unité profonde de la notion de police. Plusieurs critères de distinction sont néanmoins nécessairement avancés, dans la mesure où l'une et l'autre police va impliquer l'application de régimes juridiques distincts. En premier lieu, le clivage fonctionnel entre la prévention et la répression, parfois mis en avant encore par certains auteurs, ne permet pas de saisir toute la complexité de la question. La police administrative est certes essentiellement préventive, mais elle peut aussi rechercher à mettre fin à un trouble à l'ordre public en cas d'échec de la prévention et alors même que des infractions ont pu être commises. À l'inverse, on le sait, La police judiciaire peut parfaitement prévenir, elle aussi, la commission d'infraction, comme en témoigne, par exemple, et pour ne citer que lui, l'article 39-2 du Code de procédure pénale, qui énonce que le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale. En second lieu, le critère finaliste de distinction, critère plus moderne, fondé sur la commission d'une infraction déterminée et sur la recherche et l'arrestation de leurs auteurs, est de son côté sans doute plus pertinent, même s'il s'est toujours montré quelque peu poreux. Poreux d'abord parce que la notion d'infraction déterminée a été entendue de manière extensive par le tribunal des conflits, on le sait, au profit de la compétence du juge judiciaire. Pour eux, ensuite, parce que ce critère, qui n'est pas autre chose qu'un critère chronologique, n'évite pas, tu l'as dit Delphine, les chevauchements possibles entre les deux polices. Cette porosité est manifeste, par exemple, s'agissant des contrôles d'identité qui seront l'objet de la seconde table ronde de la journée. Alors bien sûr, la question qui nous occupe aujourd'hui peut apparaître purement rhétorique, voire provocante. La distinction entre la police administrative et la police judiciaire doit avoir un sens, puisqu'elle dérive du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, et qu'elle est censée, par-delà, éviter l'arbitraire de l'exécutif. D'un côté, en effet, la police judiciaire a pour objet, on l'a dit, la répression des infractions pénales, et cette répression doit nécessairement relever de l'autorité judiciaire. D'un autre côté, la police administrative, dont le but est de préserver et maintenir l'ordre public et de prévenir les infractions pénales, je vais revenir sur ce dernier élément, relève de la responsabilité du pouvoir exécutif. À cet égard, il faut noter que la question de la distinction entre les deux polices n'est pas réglée tout à fait de la même manière selon le juge dont il est question, même si un dialogue peut avoir lieu, notamment, évidemment, entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. On se souvient qu'ainsi, à l'occasion de ce qu'il convient d'appeler l'affaire Dieudonné, le Conseil d'État avait repris la formulation de son voisin, selon laquelle la police administrative a pour but de prévenir les infractions pénales. Cette formule est en réalité ancienne, elle remonte au code du 3 Brumaire en 4, qui disposait que la police administrative tend principalement à prévenir les délits. Cette formulation avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque de la première ordonnance du Conseil d'État sur cette affaire Dieudonné, préfigurant pour certains auteurs l'avènement d'un régime purement préventif. Le Conseil d'État a eu le mérite de préciser cette formule en jugeant dans l'arrêt Agriff du 9 novembre 2015 qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de causer un trouble à l'ordre public. Ce n'est alors qu'à la condition que l'infraction constitue aussi une atteinte à l'ordre public que l'autorité de police administrative est autorisée à prendre des mesures. La prévention des infractions pénales n'est donc pas un but complémentaire et distinct de la préservation de l'ordre public, mais n'est en réalité qu'un aspect de cette préservation. Si cette formulation ne remet donc pas en cause les cadres généraux de la distinction entre les deux polices, elle révèle néanmoins l'existence d'hypothèses où un même comportement peut faire l'objet d'un cumul de qualifications d'infractions pénales d'un côté et de troubles à l'ordre public de l'autre. Cette double qualification emporte alors un cumul d'interventions possibles, la police administrative pouvant intervenir s'agissant de comportements pouvant, par ailleurs, faire l'objet d'une répression pénale. À bien des égards, la police administrative peut même correspondre à un préalable à cette répression en collectant des renseignements permettant d'éventuellement caractériser les infractions. Cette question fondamentale, qui est celle du point de départ des mesures de police, sera examinée lors de la première table ronde qui suivra nos propos. C'est ensuite, et ceci est lié, s'agissant des moyens matériels utilisés par les deux polices, que la question qui nous occupe aujourd'hui va elle aussi prendre tout son sens. Le critère finaliste de distinction semble en effet quelque peu malmené par les évolutions législatives de ces dernières années, et encore récemment par la loi du 30 octobre 2017, donc renforçant la sécurité intérieure. législation qui octroie des moyens importants à la police administrative au nom de la lutte contre le terrorisme. Ces moyens inspirés de la loi sur l'état d'urgence, sans pour autant s'y assimiler complètement, se rapprochent, au nom de la prévention du terrorisme, eh bien de ceux utilisés par la police judiciaire dans le cadre de la répression. L'utilisation de techniques juridiques semblables, de manière concurrente ou concomitante, et parfois s'agissant d'un même comportement, semble traduire une certaine confusion entre les deux polices. Les mesures de surveillance individuelle et les visites et saisies de la loi du 30 octobre 2017, qui seront l'objet des 3e et 4e tables rondes de la journée, montrent par exemple que la police administrative peut prendre des mesures que l'on peut qualifier de coercitives lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, et s'agissant de personnes qui, soit entrent en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit des personnes qui soutiennent, diffusent ou adhèrent à des thèses incitant à la commission de tels actes ou faisant leur apologie. Or, on le voit bien, ces comportements sont déjà potentiellement qualifiables d'infractions pénales, infractions dites de préparation ou de prévention. Un choix d'engager des poursuites ou une action sur le terrain de la police judiciaire ou de la police administrative devient alors possible, de sorte que les deux polices apparaissent soit comme complémentaires, voire comme carrément interchangeables. Alors, l'extension des pouvoirs de l'administration en ces cas conduit nécessairement à un accroissement de la compétence du juge administratif et à une réduction corrélative du champ de compétence de l'autorité judiciaire. La question du sens de la distinction entre police administrative et police judiciaire est alors déplacée vers celle des niveaux respectifs de garantie accordés aux personnes qui sont visées par ces mesures. Elle conduit in fine à s'interroger sur l'éternelle question de l'office des juges des deux ordres de juridiction. Cette interrogation, tu l'as dit Delphine, est à relier bien évidemment avec l'interprétation restrictive de l'article 66 de la Constitution, adoptée par le Conseil constitutionnel, la notion de liberté individuelle étant, on le sait, limitée à la sûreté, c'est-à-dire à la question de la détention pure et simple. Le juge constitutionnel avait dans ce cadre largement validé le principe même de l'assignation à résidence de l'état d'urgence en estimant que cette mesure ne comprenait pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 et qu'en conséquence, le juge administratif restait bien compétent pour en connaître. Certains auteurs regrettent que le juge judiciaire soit ainsi exclu du contrôle de ces mesures qui constituent pourtant des atteintes à certaines libertés et notamment à la liberté de circulation. S'il n'est pas anormal que le juge administratif soit compétent dès lors qu'il s'agit de contrôler la légalité de mesures prises par l'administration, on sait que le législateur peut, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, placer des opérations de police administrative sous le contrôle de l'autorité judiciaire si cette dernière offre des garanties que n'assurerait pas le régime de droit commun de la police administrative. Mais il n'est pas non plus interdit de penser, à l'opposé, que le juge administratif est lui aussi devenu un gardien des libertés, notamment depuis l'introduction du référé du même nom, si tant est qu'un contrôle a posteriori soit considéré comme suffisant afin d'assurer cette protection. Il s'agira donc pour les intervenants de cette journée de comparer l'utilisation de ces techniques de police qui sont prévues tant par le Code de la sécurité intérieure que par le Code de procédure pénale et de s'interroger sur les niveaux de garantie offertes aux personnes concernées par ces mesures par les juges des deux ordres de juridiction. On sait en effet, pour paraphraser Jacques Ellul, que ce n'est pas la technique en soi qui est mauvaise, mais bien l'utilisation qu'on en fait. Je vous remercie.